Chapitre 4. Contagieuse comme l'hallucination, la crédulité qui transformait en œuvre magique les faits les plus simples, transformait également en sorciers les hommes qui, par leur génie ou leur science, s'élevaient au-dessus du vulgaire. Orphée, Amphion, Zoroastre, Pythagore, Démocrite, Socrate, Aristote, Numa Pompilius, dans l'Antiquité païenne, sont réputés sorciers. On disait même que ce dernier, pour rédiger ses lois, avait recours à l'hydromancie et qu'à l'aide de conjurations magiques, il en avait fait apparaître tous les articles dans un baquet d'eau qui en reflétait le texte comme un miroir. Cham et Moïse furent également regardés comme des magiciens. Jésus-Christ lui-même fut traité de magicien par les ennemis de sa divinité, qui allèrent jusqu'à dire que pour opérer ses miracles, il consultait les heures astrologiques. Apollonius de Tyane, Simon, Porphyre, Jamblic jouirent dans les premiers siècles de notre ère d'une immense réputation à cause des prodiges qu'on leur attribuait. Quelques pères de l'Église même, avant que la foi n'eût touché leur cœur, approchèrent leurs lèvres, disent les hagiographes, de ces sources empoisonnées. Saint Cyprien d'Antioche, entre autres, voulut s'initier aux sciences infernales. Mais, convaincu bientôt de la faiblesse des démons, il se dégoûta de son art. Et comme il faisait des reproches au diable de son impuissance, celui-ci le renversa par terre et s'efforça de le tuer. Virgile, complètement défiguré, était devenu un petit homme bossu et laid, qui s'occupait de toute autre chose que de vers et qui n'avait plus guère de commun avec le divin poète que de porter le même nom, d'avoir demeuré à Rome et d'être enterré aux environs de Naples. Ce néo-Virgile, très souvent cité dans les romans de chevalerie, appliquait principalement sa science infernale à la mécanique, à l'architecture et aux beaux-arts. En se transformant, il était resté artiste, car on sait qu'il fit une lampe inextinguible, un pont très long qui se soutenait sans arche, en un mot un véritable pont suspendu, une tête d'airain qui annonçait l'avenir, une mouche du même métal qui débarrassait les maisons des véritables mouches, un œuf sur lequel était bâtie une ville entière qui s'écroulait quand on remuait l'œuf, et l'instant d'après se rebâtissait d'elle-même, etc., etc. L'une des périodes les plus curieuses de l'histoire des sciences occultes est sans contredit l'époque qui s'étend du 1er au 3e siècle de notre ère. Une transformation profonde s'opère dans l'esprit des païens eux-mêmes, de ceux que n'a point encore touché la lumière de la religion nouvelle. Cette voix mystérieuse qui courait le long des rives de la mer Égée, « Le grand Pan est mort », semble annoncer qu'un âge nouveau va commencer pour tout le monde. Aux antiques légendes du paganisme s'ajoutent des légendes philosophiques et populaires qui sont comme la source des traditions merveilleuses du Moyen-Âge. Une foule d'illuminés réclame pour eux-mêmes le pouvoir qui échappe aux dieux détrônés de l'Olympe. Les enchanteurs, les devins, les sorciers ont de nombreux précurseurs. La magie s'allie encore avec la philosophie et la science antique, en même temps qu'elle cherche à opposer ses mensonges aux miracles de la foi nouvelle. Deux hommes au premier siècle de notre ère représentent cette double tendance. Nous avons nommé Apollonius de Tyane et Simon le magicien. Simon, contemporain des apôtres, avait acheté à Tyr une femme perdue nommée Hélène. Il disait que cette femme était la créatrice des anges, qu'elle était descendue sur la terre en passant de ciel en ciel, que quant à lui, il n'avait que la figure de l'homme et qu'il était le vrai Messie, et pour séduire les peuples, il opposait au miracle du Christ des enchantements et des sortilèges. Il se vantait de pouvoir rappeler des enfers les âmes des prophètes, de voler à travers les airs. Il disait qu'il s'était enveloppé dans le feu, qu'il se confondait avec cet élément et ne pouvait en être consumé. Il avait, disait-il, animé, fait mouvoir et parler des statues, changé des pierres en pain. Il se rendait invisible à volonté, passait à travers les rochers et les creusait sans employer autre chose que des mots. Il faisait naître tout à coup des arbres chargés de fleurs et de fruits, prenait la forme de divers animaux et changeait de visage sans qu'il fût possible de le reconnaître. Il racontait que sa mère, ayant un jour envoyé dans les champs faire la moisson, il avait ordonné à sa faucille de moissonner toute seule et qu'elle avait fait plus de besogne que 10 ouvriers ensemble. La foule, toujours crédule, toujours facile à tromper, acceptait sans contrôle ces récits merveilleux, et on racontait qu'un jour il avait dit à Néron « Faites-moi décapiter, et dans 3 jours je ressusciterai. » Néron, qui aimait le sang, voulut tenter l'expérience. Mais Simon se fit remplacer par un bélier sous forme humaine, et 3 jours après, il se montra comme s'il était ressuscité. Quelques pères de l'Église racontent que Simon, étant à Rome, sous l'empereur Néron, entreprit de voler et de monter au ciel, et qu'en effet, il vola pendant quelques moments, mais que les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, s'étant mis en prière, le magicien fut précipité et mourut de sa chute, ce qui n'empêcha point vers l'an 150 le peuple romain de lui élever une statue, contrairement aux lois de l'Empire qui condamnaient la magie et punissaient sévèrement ceux qui s'adonnaient à ces pratiques. Apollonius de Tyane n'avait point eu, comme Simon, connaissance de la vraie foi. C'était un philosophe pythagoricien originaire de Tyane, ville de Cappadoce. Après avoir pratiqué toutes les austérités de la secte pythagoricienne, il entreprit de longs voyages, visita Babylone, Taxella, capitale des Indes, et acquit, dans le cours de ses pérégrinations, une renommée si grande qu'à son entrée à Éphèse, tous les artisans quittèrent leurs travaux pour le voir. Ce nuage fatidique qui couronnait dans ses âges reculés tous les hommes supérieurs ne tarda point à l'environner d'une auréole éblouissante, et il fut considéré par le peuple comme le plus puissant des magiciens. En effet, Philostrate, qui nous a transmis sa vie, raconte de lui des merveilles surprenantes. Il comprenait le langage des animaux et traduisait avec la plus grande facilité les présages annoncés par les cris des oiseaux. Il interprétait également les songes. Pendant un séjour assez long qu'il fit à Syracuse, une femme mit au monde un enfant à 3 têtes. Ces monstruosités humaines faisaient toujours alors une sensation très vive. Tous ceux qui expliquaient les prodiges furent consultés, mais leur science fut impuissante. Apollonius n'eut qu'à jeter les yeux sur l'enfant pour expliquer le phénomène. Les 3 têtes signifiaient les 3 prétendants à l'Empire, Galba, Othon et Vitellius. Un démon d'un caractère méchant et dissimulé était entré dans le corps d'un jeune garçon. Apollonius l'enchassa en lui adressant une lettre pleine de menaces. Une autre fois, il guérit un tueur de lions qui avait été blessé à la cuisse en combattant un de ses animaux par la seule apposition des mains sur le membre blessé. Il enseignait aux femmes à enfanter sans douleur en cachant sous leurs vêtements un lièvre vivant. Il leur enseignait également à préserver leurs enfants de l'intempérance en leur faisant manger des œufs de hibou avant qu'ils aient bu du vin. Apollonius était tout à la fois devin et nécromancien. À Pergame, sur les ruines de Troie, il passa la nuit sur le tombeau d'Achille et par le moyen d'un sortilège qu'il avait appris dans l'Inde, il évoqua l'âme du héros et eut avec cette âme une très longue conversation. À Éphèse, il annonça l'approche d'une peste et d'un tremblement de terre. Il se trouvait encore dans cette ville au moment même de la mort de Domitien, et le raconte qu'il s'arrêta tout à coup au milieu d'une discussion publique et s'écria « C'est bien fait. Stéphanus, courage, tue le tyran. » Ensuite, après un moment de silence, il reprit « Le tyran est mort, il est tué en ce moment même. » Apollonius n'était pas moins habile dans la pratique de cette médecine merveilleuse qui guérissait avec des mots. Dans la ville de Tarse, un chien enragé avait mordu un jeune homme et celui-ci s'était mis à faire, comme les chiens, à aboyer et à marcher à quatre pattes. La famille du jeune homme était désespérée de cet accident, et sur la grande réputation d'Apollonius, elle le pria de guérir cette maladie étrange. Celui-ci demanda où était le chien. On lui dit qu'il se tenait ordinairement auprès d'une fontaine et que là, toujours altéré et n'osant jamais boire, on le voyait s'agiter sans cesse avec des mouvements convulsifs. « Qu'on me l'amène ?» dit le magicien. L'ordre fut exécuté. Le chien, en voyant Apollonius, s'approcha de lui dans l'attitude d'un suppliant et avec des gémissements. Celui-ci le caressa, et se faisant amener le jeune homme qui avait été mordu, il ordonna à l'animal de lécher la plaie qu'il avait faite. La guérison fut instantanée. Quant au chien, il le conduisit sur le bord du fleuve qui traversait la ville, et lui ordonna de le passer à la nage. Le chien, toujours docile, obéit encore, et quand il eut touché l'autre rive, il se mit à courir, à aboyer, à redresser les oreilles et à remuer la queue, car il était joyeux de se sentir guéri. Nous avons insisté sur ces détails parce que Simon le magicien et Apollonius sont célèbres entre tous les faiseurs de prodiges et que tous deux, au seuil même du Moyen-Âge, sont comme le type et la souche originelle de cette double race qui se perpétue à travers les légendes, l'une s'adressant comme Simon au génie du mal pour faire le mal, l'autre comme Apollonius, cherchant dans une science supérieure le pouvoir d'adoucir les maux de l'humanité et d'étendre la puissance de l'homme au-delà des limites imposées à sa faiblesse. En un mot, le sorcier et l'enchanteur. Pour épuiser la liste de tous les hommes célèbres, il faudrait, pour ainsi dire, citer les noms de tous ceux qui, dans les arts, la médecine, les sciences et la philosophie, ont fait faire au Moyen Âge quelques progrès à l'esprit humain. Ce qui contribua puissamment à corroborer cette croyance, c'est que les sciences, comme les arts technologiques, s'enveloppèrent toujours à ces époques de ténèbres, d'un certain mystère, que leurs formules étaient considérées comme des secrets, et que souvent ne les communiquaient qu'à un petit nombre d'initiés, ce qui sans aucun doute fit perdre une foule de découvertes précieuses. L'illustre Roger Bacon ne parut à la plupart de ses contemporains qu'un sorcier vulgaire. Il en fut de même des encyclopédistes, Thomas d'Aquin, Albert le Grand, Raymond Lull, car on ne pouvait comprendre qu'un homme parvint, sans le secours du diable, à embrasser l'universalité des connaissances humaines. On voit, par le grand nom de saint Thomas, que les théologiens n'étaient pas plus épargnés que les savants, et les papes, à leur tour, furent accusés comme les théologiens. Ces papes sont Sylvestre II, Benoît IX, Jean XX, Jean XXI, Grégoire VII et Léon III, six en tout. Des communications que Sylvestre II avait eues avec les Arabes et les connaissances qu'il leur devait attirèrent sur lui les soupçons les plus absurdes, et on alla jusqu'à l'accuser de ne s'être élevé à la papauté qu'en se vendant au diable, en un mot d'avoir échangé son âme pour la tiare. Des reproches du même genre furent adressés à Grégoire VII, et ce qu'il y a de curieux, c'est que ces reproches ont fait le sujet d'un livre écrit par un grand dignitaire de l'Église, le cardinal Beynot. Toutes les absurdités que peut rêver une imagination en délire sont entassées dans les biographies légendaires des prétendus sorciers, et nous recommandons aux personnes curieuses du fantastique l'histoire du docteur Faust, de ce même Faust que le génie de Goethe devait emprunter au démonographe pour en faire un des types les plus grandioses de la poésie moderne. Fils d'un paysan des environs de Weimar, Jean Faust, né au commencement du XVIe siècle, après avoir étudié la théologie et la médecine, se livra exclusivement à la magie et devint pour les Allemands l'idéal du sorcier. Faust, qui excellait à conjurer le diable, avait asservi à ses ordres par un pacte de 24 ans un démon nommé Méphistophélès. À l'aide de ce démon, il descendit aux enfers, parcourut les sphères célestes et toutes les régions du monde sublunaire. Il eut un commerce de galanterie avec Hélène, femme de Ménélas, qu'il avait rappelée de l'autre monde pour s'assurer de sa beauté. Il fit apparaître Alexandre le Grand devant Charles Quint, et pour terminer convenablement son infernale existence, il eut à l'expiration de son pacte le cou tordu par le diable. La plus célèbre comme la plus cruelle de ces accusations de magie est, sans contredit, celle qui fut portée contre Jeanne d'Arc. Ce miracle vivant de notre histoire, cette figure presque divine, qui semble grandir encore chaque jour à la distance des siècles, et qui représentera désormais pour tous les âges, comme pour tous les peuples, le symbole de l'héroïsme élevé par la foi à son dernier degré de puissance. Les détails du procès de cette sainte et noble fille sont trop connus pour qu'il soit besoin de les rapporter ici, même en ce qui se rattache directement à notre sujet. Mais ce que nous tenons à constater, ce que personne jusqu'ici n'a remarqué, c'est que de ce procès date en France et en Europe une ère nouvelle dans l'histoire de la sorcellerie. Le doute se manifeste pour la première fois. L'évidente absurdité des reproches dont Jeanne fut l'objet, la grandeur de sa raison quand elle réfuta ses calomnies grossières, son amour du pays et sa foi démontrèrent à tous les esprits qui gardaient quelques notions du bon sens qu'il était possible dans ce monde de faire de grandes choses sans l'intervention du diable. Les écrivains qui s'efforcèrent de la justifier du reproche d'avoir été sorcière en arrivèrent nécessairement à se demander ce que c'était que la sorcellerie. Et tandis que, d'un côté, il y avait une véritable recrudescence de crédulité, de l'autre, il se formait une école investigatrice qui devait aboutir au remarquable livre de Naudet, « Apologie des grands hommes, accusés de magie ». Mais il s'écoula près de 15 siècles à dater de notre ère, avant que cette école se fût formée. Et si en demandant plus haut ce qu'avait fait la raison, nous avons pu dire justement qu'elle s'était inclinée, nous pouvons dire ici plus justement encore qu'elle avait abdiqué complètement. On conçoit que, du moment où certains hommes étaient investis par la tradition universelle d'un pouvoir aussi grand et surtout aussi malfaisant que celui des sorciers, la société se soit crue sérieusement menacée et qu'elle ait pris, pour se défendre, les plus grandes précautions. On conçoit également que l'Église, outragée dans sa foi, se soit armée d'une réprobation sévère. Cette réprobation était légitime, mais, comme en semblable matière, les délits étaient le plus souvent imaginaires, la répression atteignit une foule de victimes innocentes et les châtiments furent presque toujours d'une effroyable rigueur. L'Antiquité elle-même avait compris le danger qui pouvait résulter d'une science ténébreuse dont le but était de changer l'ordre éternel de la nature. Elle avait reconnu que les maléfices et les filtres cachaient souvent de véritables empoisonnements, que ceux qui, à côté des oracles et des prêtres, se mêlaient de prédire l'avenir par l'évocation des morts, n'étaient que des charlatans qui cherchaient des dupes. Et tout en admettant une espèce de magie moitié scientifique, moitié religieuse, elle poursuivit avec sévérité les adeptes des sciences occultes qu'on désignait alors sous le nom de mathématiciens. Une loi de Constantin, promulguée en 321, établit nettement la distinction entre les deux sciences en admettant que certains magiciens peuvent rendre de véritables services, guérir les maladies, conjurer les vents, et que dans ce cas, il faut les laisser faire. Mais bientôt, Constance frappa d'une même réprobation tous les adeptes des sciences occultes. Il leur imposa un silence éternel, et par une loi promulguée en 358, il condamna les magiciens, les chaldéens, à être déchirés avec des ongles de fer. Les codes barbares les proscrivirent également. Et le chapitre 47 de la loi salique porte que les sorcières qui dévoreront des hommes seront condamnées à 8000 deniers d'amende. Les pères de l'Église, persuadés que la magie était l'héritière directe des rites et des impuretés du paganisme, se montrèrent aussi pour elle d'une grande sévérité. Les conciles d'Ancyre et de Laodicée frappèrent les sciences occultes d'anathèmes, mais en punissant seulement par la pénitence et des peines spirituelles ceux qui se livraient à des maléfices. Dès ce moment, la législation civile et religieuse fut nettement établie et la pénalité seule se modifia suivant les temps. Charlemagne, dans ses capitulaires, s'inspirant des lois romaines, des lois barbares, des canons des conciles, déclara les magiciens des hommes exécrables. Jusqu'au XIIIe siècle, les condamnations furent peu nombreuses et beaucoup moins sévères qu'elles ne l'ont été depuis. Charlemagne, tout en ordonnant qu'on se saisisse des sorcières, ne veut pas qu'on les fasse périr, et il recommande seulement qu'on les tienne en prison, afin qu'ils s'amendent. On voit même en 936 le pape déclarer solennellement que, quoique les devins, les enchanteresses et les sorciers soient condamnés à mort par l'ancienne loi, les juges ecclésiastiques doivent cependant leur sauver la vie pour qu'ils puissent faire pénitence. Et cette indulgence, 3 siècles plus tard, fit place à la plus inexorable sévérité. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, les hérésies en France avaient été avant tout philosophiques, mais à cette époque, elles s'imprégnèrent d'une foule de superstitions qui semblent en certains points reproduire les doctrines orientales. Les Vaudois et les Albigeois, qui furent considérés comme les descendants directs des Manichéens, admettaient comme eux l'existence de deux principes entièrement indépendants qui se partageaient le gouvernement du monde. Bardesane, Manès, Priscillien semblaient renaître dans les sectes que nous venons de nommer. Ces sectes, en élevant le diable jusqu'à l'idée de cause, en firent le vice-roi tout-puissant de ce monde. Elles partagèrent leurs adorations, et l'importance que prit alors la sorcellerie fut une conséquence de leur doctrine. L'Église, qui retrouvait là d'antiques erreurs, s'arma d'une rigueur nouvelle. Elle enveloppa dans une même proscription les hérétiques et les sorciers, et pour punir des crimes qui remontaient jusqu'à Dieu, on recourut au supplice que Dieu lui-même imposait aux réprouvés. On brûla ce que l'on regardait comme coupable d'hérésie et de sorcellerie. Une juridiction nouvelle, celle de l'Inquisition, fut instituée pour connaître de ces crimes, et une bulle du pape Innocent VIII signala les sorciers à la sévérité des inquisiteurs. « Nous avons appris, dit cette bulle, qu'un grand nombre de personnes des deux sexes ne craignent pas d'entrer en communication avec le diable et que par leur sorcellerie, elles frappent également les hommes et les animaux, rendent les mariages stériles, font périr les enfants des femmes et les petits des bestiaux, flétrissent les blés, les jardins, les fruits et l'herbe des pâturages. » Par ces motifs, les inquisiteurs furent armés de pouvoirs extraordinaires. Les juges civils les secondèrent dans l'œuvre de la répression. Les bûchers s'allumèrent, et les sorciers, ou ceux qu'on le regardait comme tels, furent immolés par centaines. Déjà, dès les premiers siècles de notre ère, le juif Philon avait dit que leur mort ne doit pas être différée d'un instant. Il faut les tuer, comme on écrase les serpents, les scorpions et autres bêtes venimeuses, avant qu'elles aient fait un mouvement pour mordre. Le Moyen-Âge suivit à la lettre cette recommandation cruelle, et quand Voltaire dit qu'on a brûlé en Europe plus de 100 000 sorciers, il est sans doute, aucun doute, resté bien au-dessous du chiffre véritable. Au XIVe et au XVe siècle, on voit les procès de sorcellerie se multiplier d'une manière extraordinaire, principalement en Espagne et en Italie. Les accusés appartiennent à toutes les classes de la société, aux plus éclairées comme aux plus ignorantes, et les membres du clergé ne sont pas même épargnés. Pierre d'Albano, écrivain italien et savant fort distingué, fut accusé d'avoir appris les sept arts libéraux par le secours de sept démons. On voulut le convaincre d'avoir enfermé ces sept démons dans une grosse bouteille qu'on trouva chez lui remplie d'une mixtion de sept drogues différentes. Il fut mis en prison à l'âge de 80 ans. On lui fit son procès, mais il mourut avant le jugement. Et comme il n'avait point été condamné, on l'enterra d'abord dans l'église Saint-Antoine de Padoue. Bientôt, les inquisiteurs le firent déterrer, et par leur ordre, on brûla ses os dans la grande place. En 1453, le prieur de Saint-Germain-en-Laye, Guillaume Éthiline, docteur en théologie, fut accusé de s'être donné aux démons dans l'intention de posséder une femme dont il était vivement épris, et de s'être retrouvé souvent au sabbat. La sentence fut prononcée à Évreux, mais, protégé qu'il était par sa qualité de prêtre, il en fut quitte pour une prison perpétuelle et le pain et l'eau pour toute nourriture. Ce fut surtout dans les procès intentés aux Vaudois que se révélèrent en France la sottise et la cruauté des lois, la crédulité des juges et la perversité de certains hommes qui exploitaient, dans un intérêt de vengeance et de fortune, l'ignorance et la méchanceté de leurs contemporains. Les Vaudois du XVe siècle sont mentionnés pour la première fois dans une bulle du pape Eugène IV, donnée à Florence le 10 avril 1439. Eugène accuse Amédée VIII, duc de Savoie, que le concile de Bâle venait d'élire pape, après l'avoir déposé lui-même, de s'être laissé séduire par des sorciers, frangules, straganes ou vaudois, et de s'être servi de leur aide pour l'exécution de ses coupables projets. Voici ce que dit Monstrelet. Le duc, le prince et l'ouvrier de toute cette néfande œuvre AST de ce très déloyal Satan Asmodus, jadis duc de Savoie, lequel j'épiessa à ces choses préméditées en son courage, et resté un certérier de plusieurs fausses pronostications et sorceries de plusieurs inexécrés, et maudits hommes et femmes lesquels ont délaissé leur sauveur derrière et se sont convertis avec Satan, séduits par illusion de diable, lesquels en commun langage sont nommés sorceries, frangules, straganes ou vaudoises, desquels on dit en avoir grand foison en son pays. Et par tel genre, j'ai passé aux 15 ans à rester séduit tellement que, afin qu'il peut être lu être un chef monstrueux et difforme en l'église de Dieu, il peut être un habit de ermite, etc., etc. Les accusations de vaudrerie se multiplièrent bientôt avec une extrême rapidité, principalement au nord de la France, en Flandre et en Picardie. Dans un chapitre général des frères prêcheurs tenu à Langres en 1459, un nommé Robinet de Vaux, datif de Hébuterne en Artois, condamné au feu comme vaudois ou sorcier, car les deux noms étaient synonymes, signala un grand nombre de personnes comme coupables du même délit. De nouvelles arrestations furent faites et les vicaires de l'évêque d'Arras, voyant que le nombre des accusés augmentait dans une proportion effrayante, et de plus que les faits étaient loin d'être prouvés, furent d'avis d'abandonner les poursuites. Jacques Dubois, docteur en théologie, et l'évêque Jean Faulconnier soutinrent au contraire la culpabilité et prétendirent que, aussitôt qu'un homme était pris et accusé pour la dite volderie, on ne les devait aider ni secourir, lutte même père, fer, frère ou quelque autre proche, parent ou ami, sous peine d'être pris pour vos doigts. Ces doctrines prévalurent. La pitié fut interdite. On nomma des commissions composées de clercs, de moines et de jurisconsultes. On amena les accusés, la tête couverte d'une mitre, sur un échafaud au milieu de la cour du palais épiscopal. Et là, l'inquisiteur Pierre Boussard leur reprocha d'avoir assisté au sabbat. On les soumit ensuite à la torture, et quand on leur demanda si les faits allégués contre eux étaient réels, vaincus par la douleur, ils répondirent que oui. Peu de jours après, on les brûla, et tous, en mourant, protestèrent de leur innocence. L'année suivante, en 1460, de nouvelles exécutions eurent lieu. Mais en 1461, le nouvel évêque Jean Geoffroy, qui pendant toutes ces scènes lugubres avait été absent de sa ville épiscopale, y revint enfin pour mettre un terme à ses cruautés. Il désapprouva vivement la conduite des juges. Le Parlement s'intéressa dans l'affaire, on relâcha les prétendus vaudois qui se trouvaient encore en prison, et 30 ans plus tard, le 10 juillet 1491, la mémoire des malheureuses victimes de cette odieuse persécution fut solennellement réhabilitée au lieu même où elles avaient subi le dernier supplice. Ici se présente naturellement cette question qui ressort de la nature même des accusations dont les sorciers étaient l'objet. Comment des hommes qui avaient asservi les éléments, qui se transportaient par les airs avec la rapidité de la pensée, et dont le diable lui-même s'était fait l'esclave complaisant, comment de pareils hommes pouvaient-ils se laisser prendre ou comment, une fois pris, n'échappaient-ils pas à la prison et par cela même au supplice? Il y avait là, pour ceux qui croyaient au pouvoir des sorciers, un fait embarrassant. Mais le Moyen-Âge avait toujours une réponse prête pour toutes les absurdités, et les juges, aussi bien que la foule ignorante, étaient persuadés que, du moment où le sorcier se trouvait dans les mains de la justice, le diable l'abandonnait aussitôt, qu'il pouvait bien, pendant la durée du procès, lui donner quelques conseils, mais qu'il était tout à fait impuissant à le sauver. L'absurdité de l'accusation se trouvait ainsi sauvegardée par une absurdité nouvelle. Le XVIe siècle, que l'on est convenu de regarder comme une époque d'affranchissement pour l'esprit humain, se montra, en ce qui touche les sciences occultes, plus crédule et aussi cruel que les siècles précédents. Le nombre des sorciers s'accrut par toute l'Europe dans une proportion considérable, et les traités de sorcellerie et de démonologie qui furent à cette date publiés dans toutes les langues et chez tous les peuples de la chrétienté contribuèrent à fortifier encore les erreurs populaires chez les catholiques aussi bien que chez les réformés. La plupart des prédicateurs, institués d'après l'adoption des doctrines de Luther, étaient en général des hommes dépourvus d'instruction, des artisans étrangers à toute espèce de science et de littérature. Au lieu de combattre la sorcellerie, ils contribuèrent encore à la propager dans les sectes nouvelles, et Luther lui-même leur donna l'exemple. Les sympathies de l'orgueil et de la révolte rapproche le démon et le réformateur. Et pour le moine de Worms, il semble que le monde ne soit qu'une immense diablerie. Il tient avec le diable des conférences théologiques. Et il arriva même un jour que Luther, ne sachant que répondre aux arguties de son adversaire, lui lança, à défaut de raisonnement et de texte, son écritoire à la figure. On montra longtemps dans la chambre célèbre de la Wartburg une large tache d'encre qui rappelait la dispute. Dans ce grand siècle du scepticisme, qui est aussi le grand siècle de la crédulité, Satan se relève de son antique déchéance, et il vient d'un souffle puissant éteindre les lueurs tremblantes de la raison, comme autrefois il éteignait les lampes dans le cloître de Cîteaux. Ainsi qu'au temps de Salvien, le diable est partout avec son cortège de sorciers, au nord et au midi, en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre, la ronde échevelée du sabbat emporte dans son tourbillon fantastique les adorateurs de Satan. Les bûchers brillent sans s'éteindre. En quelques années, le seul électorat de Trèves vit périr plus de 6 000 de ses habitants. En Angleterre, un enfant de 5 ans fut accusé de tourmenter ceux qui lui désignaient les initiés, et des gens qui s'imaginaient avoir été mordus par lui montraient sur leur corps les marques de ses dents. Les animaux mêmes ne furent point épargnés, et l'on pendit un chien pour crime de sorcellerie. En France, la persécution fut incessante et sans miséricorde. Pierre de Lancre, magistrat au Parlement de Bordeaux, devint conseiller d'État pour avoir envoyé à la mort dans le pays de la Bourdes environ 500 malheureux qui furent tous brûlés. Un conseiller du duché de Lorraine, Nicolas Rémy, dit avec un certain orgueil, en résumant ses services, « Je compte que depuis 15 ans que je juge à mort en Lorraine, il n'y a pas eu moins de 900 sorciers convaincus, envoyés au Dieu supplice par notre tribunal. » Il existait, dit-on, à Paris, sous le règne de Charles IX, plus de 30 000 individus qui s'occupaient de sorcellerie. En 1515, 500 sorciers furent exécutés à Genève dans le cours de 3 mois. 1 000 000 périrent en 1 année dans le diocèse de Côme, et plus tard, dans la même diocèse, on en brûla 100, terme moyen, par année. À cette triste époque, l'art de reconnaître les sorciers, de les interroger, de les torturer, de pénétrer dans les secrets de leur science, devint, pour quelques hommes, une spécialité qui leur valut des honneurs, du pouvoir et de la renommée. De Lancre, Bodin, Del Rio, Boguet, le roi d'Angleterre Jacques II ont excellé dans des questions de sorcellerie. Et l'on conçoit que, du moment où ces écrivains admettaient la réalité des faits consignés dans leurs livres, ils aient cru réellement rendre un grand service à la société et à la religion en débarrassant la terre de ces malfaiteurs insignes qui la souillaient par leur présence. On peut en juger par les 15 chefs d'accusation suivants qui nous ont été conservés par Bodin et qui tous, selon lui, méritent une mort exquise. Premièrement, les sorciers renient Dieu. Deuxièmement, ils le blasphèment. Troisièmement, ils adorent le diable. Quatrièmement, ils bivouent leurs enfants. Cinquièmement, ils les lui sacrifient avant qu'ils soient baptisés. Sixièmement, ils les consacrent à Satan dès le ventre de leur mère. Septièmement, ils lui promettent d'attirer tous ceux qu'ils pourront à son service. Huitièmement, ils jurent par le nom du diable et s'en font honneur. Neuvièmement, ils commettent des incestes. Dixièmement, ils tuent les personnes, les font bouillir et les mangent. Onzièmement, ils se nourrissent de charognes et de pendus. Douzièmement, ils font mourir les gens par le poison et par les sortilèges. Treizièmement, ils font crever le bétail. Quatorzièmement, ils font périr les fruits et causent la stérilité. Quinzièmement, enfin, ils ont copulation charnelle avec le diable. On frémit quand on voit sur quels soupçons et sur quelles preuves impossibles reposent la plupart des procès de sorcellerie. Les juges voient des coupables partout. Et comme le dit avec raison Walter Scott en parlant des écrits de Delancre, son histoire ressemble à la relation d'une guerre à outrance entre Satan d'un côté et les commissaires du roi de l'autre. « Attendu, dit le démonographe, que rien n'est plus propre à frapper de terreur le diable et tout son empire qu'une commission armée de tels pouvoirs. » La simple accusation équivalait la plupart du temps à un arrêt de mort, car il était toujours impossible de prouver qu'on n'avait point de rapport avec Satan. Une épidémie venait-elle à éclater dans une ville? Un orage avait-il ravagé la campagne? Un paysan perdait-il ses bœufs ou ses moutons? Il ne manquait jamais de gens pour accuser les sorciers de ses malheurs. C'était là, pour les haines et les vengeances, une accusation commode, et c'était aussi, pour la cupidité, une source féconde de profit, car en plusieurs pays, les biens des condamnés étaient répartis après confiscation non seulement entre les rois, les princes, les villes, etc., mais encore entre les dénonciateurs et les juges. Et ce fait, aussi bien que la crédulité, peut expliquer le grand nombre des accusations. Le président Hainaut rapporte que, demandant à la Perrère, auteur d'une histoire du Groenland, pourquoi il y avait tant de sorciers dans le Nord, celui-ci lui répondit « C'est que le bien de ces prétendus sorciers que l'on fait mourir est en partie confisqué au profit de ceux qui les condamnent. » Dans les procès pour sortilège, l'audition des témoins n'était qu'une formalité insignifiante et souvent dangereuse pour ces témoins eux-mêmes que l'on ne manquait pas d'accuser aussi lorsqu'ils manifestaient le moindre doute ou la moindre pitié. Les circonstances les plus futiles étaient regardées comme des preuves irrécusables de culpabilité. Ainsi, nous avons vu plus haut que, d'après une croyance générale, Satan, dans les initiations du sabbat, imprimait avec l'onglet du petit doigt une marque presque invisible sur le corps des néophytes. L'un des premiers soins des juges était de retrouver cette marque sur les accusés, et il suffisait souvent de la plus légère cicatrice pour être déclaré sorcier. L'insensibilité telle qu'elle existe dans la catalepsie, et quelquefois même dans le sommeil, l'extrême abattement du regard, l'impossibilité de pleurer, étaient aussi considérés comme des témoignages irrécusables, et les faits les plus simples, traduits en faits merveilleux, prenaient de suite le caractère du crime. Nous ne citerons qu'un exemple tiré du démonographe Boguet, exemple qui nous dispensera des autres par sa sottise et son atrocité. Un paysan, couché auprès de sa femme, s'aperçut que celle-ci était complètement immobile. Il l'appela, la tira par le bras, mais en vain. Il lui sembla que le souffle même était complètement suspendu. Et elle, lorsqu'il la vit tout à coup, aux premières clartés du jour, se lever sur son séant, ouvrir de grands yeux et pousser un grand cri. Le paysan, épouvanté, alla de suite raconter cet événement à Boguet. Aussitôt, celui-ci fit emprisonner la femme et trouva dans les circonstances racontées par le mari les éléments d'une accusation des plus graves. La pauvre femme eut beau protester en attribuant son sommeil et son insensibilité à la fatigue éprouvée dans le travail du jour. Elle fut condamnée et brûlée. Ce n'étaient pas seulement les hommes, mais les démons eux-mêmes qui punissaient les sorciers. Vire raconte qu'une sorcière d'Angleterre, pressentant sa mort prochaine, dit à ses enfants « Aujourd'hui, ma charrue est parvenue à son dernier sillon. Les diables viendront chercher mon corps et mon âme. Je vous prie donc de prendre ce corps, de le coucher dans une peau de cerf, de l'enfermer dans une bière de pierre, et de serrer le couvercle de cette pierre avec trois grandes chaînes. Peut-être la terre ne voudra-t-elle point recevoir ma dépouille. Cependant, 4 jours après ma mort, vous me donnerez la sépulture, et pendant 50 jours et 50 nuits, vous ferez dire des messes et réciter des prières. » Les enfants exécutèrent la volonté de leur mère, le corps fut porté dans une église, les prêtres officièrent autour du cercueil, mais vers la 3e nuit, on entendit tout à coup un bruit effroyable, les portes du temple furent brisées en morceaux. Des hommes d'une figure étrange apparurent aussitôt. L'un d'eux, plus grand et d'un aspect encore plus terrible que les autres, s'avança vers le cercueil et ordonna à la morte de se lever. Celle-ci répondit qu'elle ne pouvait pas à cause de la chaîne qui liait son cercueil. « Cette chaîne sera brisée, » dit l'inconnu, qui n'était autre que le diable. La chaîne, en effet, fut brisée comme verre. Le diable, poussant du pied le couvercle de la bière, prit la morte par la main et la conduisit à la porte de l'église. Là, un cheval noir, magnifiquement enharnaché, hennissait et battait la terre du pied. Le démon fit asseoir le cadavre sur une selle toute garnie de pointes de fer, et le cheval partit au galop. On entendit pendant 2 lieues la sorcière qui criait et appelait au secours. Bientôt ses plaintes se perdirent dans la nuit, et ceux qui furent témoins de cette étrange aventure ne doutèrent point qu'elle ne fût partie pour l'enfer. Les instruments qui servaient au maléfice des sorciers étaient traités avec la même rigueur que les sorciers eux-mêmes. On brisait leurs anneaux et on brûlait leurs livres. Cet usage remonte au premier temps de l'Église, comme on le voit par l'exemple de saint Paul, qui brûla dans la ville d'Éphèse une masse considérable de volumes magiques représentant une valeur de 50 000 livres d'argent. Vous le connaissez tous, ce licencié fameux, car Don Quichotte en parlait avec Sancho lorsque, monté sur Chevillard, il entreprenait de détruire l'enchantement qui avait couvert de barbe le menton des dames du château du Duc. « Souviens-toi, disait le chevalier de la Manche, que les diables emportèrent Torralba dans l'air à cheval sur un roseau, les yeux bandés. Il arriva à Rome en 12 heures, où il descendit à la tour de Nona, qui est une rue de cette ville, d'où il put voir le choc et la mort du Bourbon, et que le lendemain matin il était déjà de retour à Madrid, où il rendit compte de tout ce qu'il avait vu. Il raconta aussi qu'étant dans les airs, le diable lui dit d'ouvrir les yeux. Ce qu'ayant fait, il se vit si près du disque de la lune qu'il aurait pu la toucher de la main, et qu'il n'osa point tourner ses regards sur la terre, crainte de s'évanouir. Célèbre entre tous les sorciers de l'Espagne, Torralba a raconté lui-même sa vie aux inquisiteurs qui furent chargés de le poursuivre, et nous la raconterons d'après lui-même, parce qu'elle offre dans l'espèce une variété particulière et qu'elle montre que, si pour de malheureux hallucinés, la sorcellerie était un rêve dangereux, elle pouvait aussi, quelquefois, pour des intrigants habiles, devenir, en dépit des inquisiteurs eux-mêmes, une assez bonne spéculation. Le licencié Torralba naquit dans la ville de Cuenca. À 15 ans, il fut attaché au cardinal Soderini. Vers 1501, il fut reçu médecin et se lia d'amitié avec un juif nommé Alphonse, qui avait renoncé à la loi de Moïse pour celle de Mahomet, à laquelle il renonça bientôt pour se faire chrétien, et revenir ensuite par une nouvelle évolution à la religion naturelle. Alphonse fit faire à Torralba la connaissance d'un certain moine dominicain nommé frère Pierre, lequel à son tour le mit en rapport avec un esprit élémentaire nommé Zéchiel, que nul autre esprit n'égalait dans la connaissance de l'avenir et des choses cachées. Zéchiel, sur l'invitation de frère Pierre, apparut sous la figure d'un jeune homme blanc et blond, vêtu d'un habit couleur de chair et d'un surtout noir. Il dit à Torralba, « Je serai à toi pour tout le temps que tu vivras et te suivrai partout où tu seras obligé d'aller. » Depuis ce temps, l'esprit tint sa promesse. Il apparut à son protégé aux différents quartiers de la lune et il lui enseigna les secrets merveilleux propres à la guérison des maladies. Il lui apprit en même temps à connaître l'avenir par l'inspection des mains, ce qui fit au licencié une grande réputation et le mit en rapport avec les principaux personnages de son temps. Torralba se trouvait en 1510 à la cour de Ferdinand le Catholique, lorsque Zéchiel chargea de dire à ce prince qu'il recevrait bientôt une nouvelle désagréable. Le lendemain, on apprit par un courrier d'Afrique la défaite de l'expédition entreprise contre les Maures et la mort de Don Garcia de Tolède, fils du duc d'Albe, qui commandait l'armée espagnole. Une autre fois, Torralba prédit à l'archevêque Jiménez de Cisneros qu'il parviendrait à être roi, ce qui se vérifia, au moins quant au fait, puisqu'il fut gouverneur absolu de toutes les Espagnes et des Indes. En 1513, Torralba, qui se trouvait alors à Rome, eut envie de voir un de ses amis intimes, dont la résidence était Venise. Zéchiel, qui connut son désir, le mena dans cette ville, et le ramena à Rome en si peu de temps que les personnes qui faisaient sa société habituelle ne s'aperçurent point qu'il leur eût manqué. Le 5 mai 1525, Zéchiel dit au licencié que le lendemain, la ville de Rome serait prise par les troupes de l'empereur. Le licencié pria l'esprit de le conduire dans la capitale du monde chrétien pour être témoin de ce grand événement. Zéchiel y consentit. Il remit à son affidé un bâton plein de nœuds en lui disant « Ferme les yeux, ne t'effraie pas, prends ceci dans ta main et il ne t'arrivera rien de fâcheux. » Ils se trouvèrent bientôt à Rome. Et c'est à cet événement que Don Quichotte fait allusion. Après avoir assisté à toutes les péripéties de la prise de cette ville, ils revinrent à Valladolid en 1 heure et demie. Torralba publia tout ce qu'il avait vu, et comme on ne tarda pas à apprendre à la cour la nouvelle de tous les événements qui venaient de s'accomplir en Italie, la réputation du licencié, qui était alors médecin de l'amiral de Castille, se répandit dans toute l'Espagne, et on le proclama le plus grand nécromancien, le plus grand sorcier, le plus habile devin qui eût encore existé. Jusqu'à ce moment, Torralba, en exploitant habilement les connaissances surhumaines de son lutin Zéchiel, était parvenu à se faire un nom célèbre, à ramasser de grosses sommes d'argent, à se donner auprès des grands importance et crédit. Il n'avait oublié qu'une chose, c'est qu'il fallait un jour ou l'autre compter avec l'Inquisition. Après avoir subi une détention de 3 ans dans les prisons du Saint-Office, il fut arrêté au commencement de l'année 1528 et après 1 an d'information, il fut décrété que Torralba serait appliqué à la question autant que son âge et sa qualité pouvaient le permettre afin de savoir quelle avait été son intention en recevant et en gardant auprès de lui l'esprit Zéchiel. S'il croyait fermement que ce fut un mauvais ange, s'il avait fait un pacte pour se le rendre favorable, quel avait été ce pacte, comment s'était passée la première entrevue, si alors ou depuis ce jour il avait employé la conjuration pour l'invoquer, etc. Le licencié ne s'effraya point. Il donna des détails précis qui ne permirent point aux inquisiteurs de douter de l'existence de Zéchiel, et ils suspendirent la condamnation pendant l'espace d'un an, pour se donner la gloire d'amener à une éclatante conversion un sorcier si fameux. Frère Augustin Barragan, prieur du couvent des Dominicains de Cuenca, et Diègue Mauric, chanoine de la cathédrale de la même ville, furent chargés de préparer la réconciliation de l'accusé avec l'Église. Celui-ci répondit aux exhortations des deux prêtres, qui se repentait beaucoup de toutes ses fautes, mais que, quant au conseil qu'on lui donnait de s'interdire toute communication avec l'esprit Zéchiel, la chose n'était pas en son pouvoir, attendu que cet esprit était beaucoup plus puissant que lui. Que du reste, lui, il consentait à ne plus l'appeler, et qu'il s'engageait à n'écouter à l'avenir aucune de ses propositions. Les inquisiteurs se contentèrent de la réponse, et l'amiral de Castille aidant, le licencié fut bientôt mis en liberté. Le procès de Torralba fut longtemps célèbre en Espagne, où Zéchiel est encore populaire, et un historien moderne, en racontant toutes les péripéties de cette affaire célèbre, dit qu'on ne sait ce qui doit le plus étonner, ou la crédulité et l'ignorance des inquisiteurs et des conseillers du Saint-Office, ou l'audace de l'accusé, qui entreprend de faire passer ses impostures pour des faits, malgré l'emprisonnement de 3 années et les tourments de la question. Ce même historien ajoute, avec raison, que c'est là un exemple frappant de ce que l'homme est capable d'entreprendre lorsqu'il veut attirer sur lui l'attention publique et s'élever à la fortune et aux honneurs. L'histoire de bien des sorciers dans ce monde est en réalité la même que celle du licencié Torralba. La torture était pour ainsi dire le seul mode d'information. Et il résultait de là que les accusés se trouvaient toujours condamnés d'après leurs propres témoignages. Car ceux qui persistaient à se déclarer innocents au milieu des douleurs atroces qu'on leur faisait subir ne formèrent jamais qu'une très faible minorité. Il suffit de jeter les yeux sur les interrogatoires de quelques sorciers pour reconnaître qu'il n'y a là que les hallucinations de la folie ou des réponses incohérentes arrachées par d'intolérables douleurs. Consultons par exemple les faits et dits mémorables advenus dans la confession de Marie de Sens, princesse de Magie. Nous verrons Marie de Sens déclarer qu'elle avait donné son corps et son âme au diable, avait oxy plusieurs petits-enfants, les avait ouverts tout vifs afin de les sacrifier au diable, en avait égorgé plusieurs, manger le cœur à d'autres. Elle en avait volé, les avait tués pour les porter au sabbat. Elle les avait premièrement étouffés. Elle en avait rôti, noyé, brûlé, bouilli, jeté dans les latrines, dans des fours échauffés, donné à manger aux loups, lions, serpents. Elle en avait pendu par les pieds, par les bras, par le cou, chiqueté aucun si menu que celle. À aucun brisé la teste contre une muraille, escorché d'autres, assommé comme on assomme bœufs, tiré les entrailles du ventre, elle en avait lié à de gros chiens pour les écarteler, tenaillé et crucifié pour dépiter et faire déshonneur à celui qui les avait créés. Elle avait adoré le prince du sabbat, Louis Goffredi, et cependant elle se croyait une sainte, quoique lui mangeait journellement la chair des petits-enfants. Elle avait chanté en l'honneur de Lucifer le psaume « Laudate Dominum de Caelis » et autres. Mépriser le paradis de tout son cœur, désirer l'enfer pour son éternelle demeure, donner aux démons toutes les parties de son corps, toutes les gouttes de son sang, tous ses nerfs, tous ses os, toutes ses veines, etc., etc. Didyme, sorcière, s'accusera de faits analogues. Le diable lui a conseillé de prendre l'habit dans un couvent pour y jeter le trouble. Elle a semé des poudres dans tous les parloirs, dans les cloîtres, dans les jardins, pour que ceux qui viendraient se rompissent le cou. Le diable a incité à faire devenir fou, à faire mourir subitement tous les habitants de la maison. Elle a mangé de la chair des petits-enfants. Elle en a porté 7 ou 8 à la synagogue où on les a tués. Elle a mangé de la chair d'un de ses enfants et du cœur d'autres enfants. Elle en a tué un de ses propres mains avec un licou. C'est Belzébuth qui lui a commandé. Elle a été baptisée au nom de très méchants démons. Elle a donné au diable une cédule signée de son propre sang par laquelle elle lui donnait son corps et son âme. Elle a renié Dieu, sa mère et toute la cour céleste. Pour échapper aux affreuses souffrances auxquelles ils étaient soumis dans la torture, les sorciers, au moyen de 100 dragues, dont la recette est aujourd'hui perdue, arrivaient à un état complet d'insensibilité. Cet état est attesté par un grand nombre d'écrivains, entre autres par Laboureur, avocat du roi au bailliage de Dijon, qui dans son « Traité des faux sorciers et de leurs impostures » publié en 1585, dit qu'il est inutile de donner la question à cause d'une drogue engourdissante que les geôliers vendaient aux accusés. Nicolas Emmerich, grand inquisiteur d'Aragon, dans son « Directoire des inquisiteurs », parle également en termes formels de sorciers qui, appliqués à la torture, paraissaient insensibles. Les phénomènes de l'éthérisation donnent à ces faits un nouveau degré de vraisemblance. Mais si les accusés parvenaient ainsi à se dérober aux douleurs de la question, ils ne se dérobaient point pour cela au supplice, car les juges, en voyant l'adresse des bourreaux impuissants et vaincus, se rejetaient encore sur le diable qu'ils accusaient d'être l'auteur de ce phénomène, après l'avoir accusé toutefois, comme nous l'avons vu plus haut, d'abandonner ses disciples lorsqu'ils tombaient sous la main de la justice, et l'insensibilité fut regardée comme la preuve la plus certaine de la culpabilité. Que pouvait-on attendre de juges comme Delancre, comme Boguet ou comme les membres du Parlement d'Aix qui siégèrent dans le procès du curé Gaufridi? Ces derniers entraient pour tenir séance dans la grande chambre lorsque tout à coup on vit rouler sur le parquet, au milieu d'un nuage de poussière, un objet volumineux et noir. Messieurs de la Tournelle, épouvantés, s'imaginant qu'ils avaient affaire au diable, se mirent à fuir en criant, hormis le rapporteur, qui, embarrassé dans sa robe, s'était agenouillé en marmottant des prières. L'objet noir, à son tour, demanda pardon et tout s'éclaircit. Le prétendu diable était un petit ramoneur qui, en train de nettoyer la cheminée, avait perdu l'équilibre. Les fugitifs se remirent en séance, le rapporteur commença la lecture des pièces, et Gaufridi fut condamné au feu sans qu'il leur vint à l'idée que d'autres avaient pu, comme eux, prendre un ramoneur pour le diable. C'est à peine si, durant de longs siècles, quelques voix s'élevèrent pour protester contre ces cruautés et ces folies qui infestèrent les plus beaux jours du règne de Louis XIV lui-même. Fénelon, La Fontaine, La Bruyère, Molière s'élèvent en plusieurs passages de leurs écrits immortels contre l'absurde croyance à l'astrologie judiciaire. Toute puissante encore dans les hautes classes de la société. Et quoique tout soit possible aux hommes en fait de sottise et de méchanceté, on ne peut comprendre que les procès de Loudun et de Louvier soient contemporains de la méthode de Descartes, de Polyeucte et de Cinna. La lumière, cependant, brillait d'un éclat trop vif pour que les ténèbres de la sorcellerie ne fussent point bientôt dissipées. La croyance absolue, qui avait été si longtemps la règle générale, devint enfin l'exception. Le Parlement donna le signal de la réaction officielle. Il demanda, avant de condamner au feu, des preuves certaines et évidentes. Il infirma ou modéra un grand nombre de sentences des juges inférieurs, craignant justement, dit le père Lebrun, que certes on n'accusera pas de scepticisme de condamner des visionnaires plutôt que des malfaiteurs. Et il posa en principe qu'on ne devait examiner les accusés que par des voies naturelles et légitimes. En 1672, une déclaration de Louis XIV défendit à tous les tribunaux du royaume d'admettre les simples accusations de sorcellerie. Enfin, en 1682, une ordonnance nouvelle réduisit les crimes de magie à des proportions naturelles en les traitant comme des impiétés et des sacrilèges. L'exemple de Louis XIV fut suivi en Angleterre, et là, comme en France, cette date de 1682 marque la fin des persécutions. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, on vit encore ça et là se reproduire quelques faits qui attestent combien est puissante la persistance des traditions. En 1732, Dangis publia un traité sur la magie, en appelant sur les sorciers la sévérité des lois. En 1750, à Wurtzbourg, on brûla une religieuse qui se prétendait sorcière et qui affirmait avoir donné la mort à plusieurs personnes, quoique ces personnes vécussent encore. Des illuminés fondèrent en Allemagne une école de magie et de lithéurgie et recrutèrent de nombreux disciples. Enfin, de notre temps même, le 2 décembre 1823, un arrêt de la cour prévôtale de la Martinique condamna aux galères à perpétuité un nègre nommé Raymond, comme véhémentement soupçonné d'avoir usé de sortilèges et maléfices. Aujourd'hui, la sorcellerie s'est réfugiée au fond des campagnes, plutôt comme un souvenir que comme une croyance encore vivace et agissante. Les bergers en sont les derniers représentants, comme Mathieu Landsberg est le dernier représentant des astrologues, comme les fées sont les dernières filles des druides. Mais les fées ont perdu leurs baguettes. Les sorts des bergers ne changent plus en loups les jeunes agneaux. Le voyageur qui se met en route sans manteau sur la foi de Mathieu Landsberg est souvent trempé par la pluie. Et ce monde fantastique dont nous venons de raconter l'histoire s'est évanoui devant les clartés de notre âge comme le palais de Morgane au premier rayon du jour. Malgré son impuissance et sa folie, la sorcellerie n'en a pas moins dominé longtemps avec l'autorité des choses les plus vraies et les plus saintes. Elle a tenté de supplanter la science. Elle s'est révoltée contre Dieu. Elle a fait éclater au grand jour tout ce qu'il y a de folie et de méchanceté au fond de l'âme humaine, et de quelque point de vue que l'on se place pour la juger, soit du point de vue religieux, soit du point de vue physiologique ou médical, soit même du point de vue de la simple curiosité, elle présentera toujours l'un des phénomènes les plus étranges, les plus attrayants et les plus douloureux de l'histoire. Un phénomène étrange, parce qu'elle montre avec quelle facilité l'erreur s'impose et persiste. Douloureux, parce qu'elle laisse à travers les siècles une trace sanglante. Attrayante, parce qu'on y voit poindre toutes les curiosités de l'esprit humain, et qu'elle cherche, en dehors de toute observation positive, la solution de quelques-uns des problèmes que la science moderne a résolus. Par l'alphabet sympathique, elle veut correspondre aux extrémités du monde. Et aujourd'hui, le télégraphe électrique marche comme la pensée elle-même. Elle demande à l'anneau du voyageur la locomotion rapide et sans fatigue, et la vapeur plus rapidement encore que d'après les anciennes croyances, l'anneau mystérieux ne le pouvait faire. Le fulgurateur antique veut à son gré faire tomber la foudre. Et Franklin, le fulgurateur moderne, arrache au ciel la foudre obéissante. Enfin, la sorcière volante veut se frayer un chemin à travers les airs. Et le ballon dans cette route des oiseaux nous emporte plus loin que les aigles et plus haut que les nuages.